Marc Pistorio, je voulais vous dire, et vous allez voir le lien, j'ai vu le film La guerre des tucs hier, vous savez, en version 3D. Et j'ai envie de vous demander, l'amour, l'amour, c'est pas une raison pour se faire mal, hein? Parce que oui, souvent, on se dit pourquoi j'ai mal suite à cette relation amoureuse-là, pourquoi je suis insatisfaite, et ça pourrait découler de ces relations que l'on crée avec nos parents ou d'autres adultes lorsqu'on est tout petit.
Oui, absolument. En fait, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les premières relations d'intimité sont en fait celles que l'on vit avec nos parents, avec notre mère évidemment, première figure d'attachement, et avec le père aussi, particulièrement dans les deux premières années de vie, parce que c'est vraiment une période où tout l'hémisphère droit en fait du cerveau, celui des relations non verbales, celui de l'inconscient, celui des émotions, de la gestion des émotions, ce cerveau-là se développe de façon exponentielle au cours des deux premières années. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise que la recherche montre, notamment les nouvelles recherches en neuropsychologie, montre qu'il y a un impact, un fonctionnement du cerveau qui est modifié selon les premières expériences d'intimité. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, en fait, lorsqu'on devient adulte, eh bien, on est comme prédisposé finalement à aller vers certaines personnes et à choisir certains partenaires amoureux. Donc, il y a un lien qu'on ne connaissait pas exactement auparavant, qu'on soupçonnait, nous, les cliniciens, dans nos bureaux, mais qu'on peut maintenant montrer vraiment avec des images en temps réel dans le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est assez fascinant. Et ça veut dire aussi que finalement, si on comprend mieux comment ça se passe dès le début, eh bien, on va pouvoir ensuite aller vers des relations amoureuses qui sont moins souffrantes, moins des répétitions douloureuses à n'en plus finir pour mieux s'aimer finalement et mieux aimer.
Donc, la façon dont on a été aimé par notre père, notre mère, pourrait prédire le type de partenaire amoureux qu'on serait porté de choisir à l'âge adulte.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un impact. En fait, il y a des gens qui, vers lesquels on va aller plus spontanément. Si on a été un petit enfant très sécurisé, on comprend que cet enfant-là a une belle estime de soi, part à l'exploration, à la découverte du monde avec moins de doutes, et il est rassuré perpétuellement par ses parents lorsqu'il vit des insécurités. Et donc, on comprend bien que cet enfant-là qui part avec ce sentiment d'une valeur de lui-même, eh bien cet enfant-là, il va spontanément ensuite dans la vie aller vers des gens sans douter, aller vers des gens avec une plus grande liberté.
Donc, sécurisé, premier style d'attachement. Oui. Vous parlez de trois en tout. Il y en a peut-être plus.
Il y en a quatre au total. Il y en a un que j'ai moins traité dans le livre sur les relations amoureuses parce que c'est un style d'attachement que l'on nomme désorganisé, qui est beaucoup plus lié aux pathologies des enfants qui sont issus de milieux plus abusifs sur le plan physique, sexuel, des parents qui ont des problématiques de drogue, d'alcool. Je me suis moins intéressé à cette catégorie-là parce que c'est aussi la catégorie qui concerne une moindre grande population.
Ouais.
Alors que les trois autres, au contraire, vont vraiment déterminer trois tendances dans lesquelles on se retrouve tous, finalement.
Donc, sécurisé, anxieux également, ce serait un autre style d'attachement.
C'est ça. Donc, un style d'attachement anxieux, concerne vraiment les enfants qui ont été, en fait, insécurisés dans leurs besoins affectifs parce qu'ils étaient avec des parents, des mères, par exemple, plus anxieuses, qui avaient du mal à les laisser aller, qui ramenaient beaucoup plus l'idée de « le monde est dangereux, attention », et donc qui limitaient les expériences de l'enfant dans la petite enfance. Et ces enfants-là ont intégré l'idée que s'ils sont loin de leur mère, s'ils sont loin de leur père, le monde est un peu plus dangereux et donc ils sont plus inquiets. Ce sont des enfants qui restent collés à leurs parents. Ils vont s'amuser près de leurs parents, mais près des pieds de leurs parents, près des jambes de leurs parents. Et ce sont des enfants qui, dans la vie, vont considérer que seuls, ils ont moins de ressources et qu'ils ne peuvent être en sécurité que lorsqu'ils sont au contact de l'autre. Dans la relation amoureuse, eh bien, ça va donner toutes ces personnes qui sont plutôt dans des relations fusionnelles.
Un peu pot de colle.
Un peu beaucoup. Des amoureux qui vont dire « Mais pourquoi tu as besoin d'avoir d'autres amis? Pourquoi tu veux sortir sans moi? Regarde ensemble comme on on est bien tous les deux, on a besoin de personne, on a besoin de rien d'autre. Et ce sont des gens qui, dans la solitude, se meurent un petit peu. C'est-à-dire que leur monde intérieur s'écroule, ils sont mal, ils sont anxieux. Et l'anxiété dont on parle, c'est une anxiété d'abandon. Donc, ce sont des personnes qui, seules, ont le sentiment d'être abandonnées et ont peu de contact avec leur individualité.
Maintenant, autre style évitant, qui est l'inverse de l'anxieux.
Qui est en fait le pendant, on a envie de dire. Hein, et là, ce sont des enfants qui, par contre, ont été élevés par des parents qui étaient plus froids, plus distants, qui valorisaient lorsqu'ils étaient heureux, lorsqu'ils étaient pleins de joie, et qui étaient dérangés lorsque l'enfant demandait de l'aide, lorsque l'enfant pleurait. Des parents qui, typiquement, vont dévaloriser les pleurs et l'expression des émotions. Ouais. Et ces parents-là, en fait... on fait en sorte que finalement, l'enfant, alors qu'il n'était pas sécurisé dans ses besoins affectifs, a décidé inconsciemment, moi dans la vie je comprends qu'on est mieux de s'organiser tout seul. Ce sont des enfants qui deviennent hyper autonomes, hyper indépendants, et dans les relations amoureuses plus tard, ce sont les personnes avec lesquelles on a du mal à entrer dans l'intimité. Elles trouvent que les autres sont intrusifs, que les autres les étouffent. Ce sont des hyper indépendants, des hyper autonomes qui s'organisent tout seuls et qui ne demandent que très peu d'aide.
Ouais. Donc, ils ont peut-être des difficultés à garder des relations amoureuses ou du moins peut-être même à entrer en relation amoureuse.
Oui, en fait, ils vont entrer dans les relations amoureuses, mais lorsqu'il s'agit de passer à une plus grande intimité, lorsque le partenaire ou la partenaire leur dit, tu sais, j'aurais besoin de telle chose, ou j'aurais besoin de plus de présence, ou plus d'aide, ou plus de soutien, tout de suite, ils se sentent menacés et à ce moment-là, ils mettent de la distance. Ou alors, ils vont rester dans les relations à long terme, qui sont des relations de distance, particulièrement avec un autre évitant, par exemple, où là, il y a la garantie qu'il n'y aura pas d'intimité et pas trop de demandes, puisque l'autre est comme moi.
Est-ce que des gens qui aiment entretenir des relations avec des gens déjà mariés, des gens en couple, donc être l'amant ou la maîtresse, ça pourrait révéler un style d'attachement évitant?
Ça pourrait. En fait, ça pourrait à ce moment-là, parce qu'ils sont sûrs que l'autre n'est pas disponible par définition, mais ça pourrait être aussi un style d'attachement plus anxieux où ils réclament à tout prix une proximité qu'on leur refuse.
OK.
D'accord.
Mais comment on fait pour pouvoir s'identifier en tant qu'amoureux? Parce que là, ça semble pas si évident que ça, Marc.
Ben oui. En fait, ce que j'ai fait, et c'est vraiment toute la première partie du livre, c'est vraiment de décrire les styles d'attachement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu énormément de recherches. D'ailleurs, avant ce livre-là, il y a eu une recherche doctorale sur les couples québécois. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu et j'ai repris dans la recherche, en fait, toutes les caractéristiques typiques que l'on décrit pour chacun des styles. Mmh. Et au fond, l'idée, c'est de s'informer, de lire de façon éclairée. Et dans les styles qui sont décrits, on se retrouve tous, en fait. Ouais. À ce moment-là, une fois qu'on a identifié son style, on identifie aussi quels sont éventuellement les enjeux que l'on a par rapport à son propre style. Et l'idée, c'est aussi, si on est en couple, d'identifier le style du conjoint. Et dans la deuxième partie du livre, toutes les combinaisons de styles d'attachement sont décrites avec les enjeux et les points forts également. Et puis, au fond, toute l'idée, c'est la troisième partie du livre, c'est d'aller vers des outils pour développer une relation plus sécurisante, parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est ce que montre en fait la recherche.
Oui, tout ça est réversible. Tout ça peut être changé en thérapie d'une part, mais il y a d'autres façons où l'on peut s'exercer avec le partenaire amoureux à changer nos comportements.
Oui, tout à fait. À partir du moment où on développe en fait cette aptitude à identifier son propre style d'attachement, à identifier celui du conjoint et à travailler ensemble à diminuer tous les mécanismes de défense qui sont « je défends toujours ma personnalité, je ne dis jamais que je me trompe, etc., etc. »
Je suis comme ça, prenez-moi ainsi.
Oui, et les phrases typiques de l'ordre « moi, je suis tel que je suis, si ça ne te convient pas, toi, va-t'en » ou « vas-y, toi, changer ou va en thérapie parce que moi, je n'ai pas de problème. » Ça sont des attitudes très défensives, alors que pour faire évoluer la relation de couple, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil, d'être dans l'écoute, d'accepter que l'autre nous renvoie de soi une image qui n'est peut-être pas celle qu'on souhaiterait, mais d'accepter sa vulnérabilité pour pouvoir changer et pour pouvoir évoluer. Ça ne fera jamais partir personne que justement d'être dans la vérité et dans l'authenticité. ce qui cause des problèmes, c'est quand les gens restent dans des positions que moi, je qualifie de psycho-rigides, en
ouais.
fait.
Et j'imagine que c'est cette attitude-là qui amène à répéter ces modèles-là d'amour.
Absolument.
Ce que je disais tantôt, l'amour source de frustration, de conflit qui nous rend insatisfaits. C'est ça, en fait, c'est de répéter l'histoire.
Absolument. Écoutez, si vous avez plusieurs partenaires et qu'ils ne se connaissent pas et que tous vous reprochent à peu près les mêmes choses, on peut penser quand même que le problème ne vient pas exclusivement d'eux, mais aussi qu'on a relevé chez vous des dimensions qui méritent d'être changées, d'être travaillées. Toute l'énergie qu'on met à rester le même quand on a des problèmes nous contraint et nous condamne en fait à l'échec amoureux, alors que l'attitude doit être exactement l'inverse. C'est peut-être douloureux parfois qu'on nous décrive en fait selon nos failles, selon nos souffrances, mais justement, l'attachement n'est pas culpabilisant, puisque ce que j'essaie de dire et de montrer dans le livre, justement, c'est on tient maintenant des explications plus claires sur ce qui fait qu'on est qui on est sur le plan de l'attachement amoureux. Ce qu'il faut retenir au lieu de s'en défendre, c'est au contraire qu'il y a des choses à faire. Et plus on reste ouvert, et plus on peut changer.
Vous avez dit le mot culpabilisant. J'imagine aussi que l'idée n'est pas de culpabiliser notre père ou notre mère, de
bien
dire
sûr.
Tu m'as trop aimé, tu m'as trop couvert ou tu as été trop froid, trop distant avec moi. Voilà, là, je ne suis pas capable d'aimer et d'être aimé.
Non, c'est très bien que vous disiez ça parce qu'au fond, l'idée, c'est au lieu d'essayer de culpabiliser, d'accuser, de créer des histoires avec ses parents et de se victimiser et d'avoir de la pitié pour soi. Moi, le ton du livre, c'est exactement l'inverse, c'est la responsabilité. Voici de façon réaliste comment j'ai été aimé. Mes parents avaient certainement des difficultés s'ils n'ont pas pu bien m'aimer. Ils m'ont aimé, mais peut-être pas à la mesure de mes besoins. Maintenant, considérant ce réalisme-là, considérant que j'élève mon champ de conscience, que je comprends mieux d'où je viens, voici ce que je peux faire pour la suite. Donc, être centré sur les solutions, être centré sur les actions et surtout sur la conviction qu'on peut être plus heureux si on est plus ouvert à mieux comprendre qui on est.
Ouais.
On ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas.
Oui, et l'amour aussi, c'est celui que l'on a envers soi-même aussi. Il faut s'aimer suffisamment pour être capable d'envisager ces changements-là.
Tout à fait, mais je pense que de toute façon, cette démarche-là, telle que je le disais, d'élever son champ de conscience, de voir mieux qui on est et d'où on vient sur le plan de l'amour qu'on a reçu, c'est déjà en fait un engagement vis-à-vis de soi. C'est celui du changement, c'est celui de l'optimisme et de l'espoir en fait. Je pense qu'on a tous la capacité d'améliorer sa condition.
Oui. Le style d'attachement pourrait-il être lié, Marc, à notre personnalité également? Je me dis, moi, mon frère, on a été élevé par les mêmes parents, mais on pourrait développer des styles d'attachement différents de par notre personnalité.
Tout à fait. En fait, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on se rend compte que au départ, il y a une génétique. On est avec certaines sensibilités, avec une certaine personnalité qui va se façonner en fonction de l'environnement familial dans lequel on est élevé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, on pensait que le programme génétique se développait et puis qu'on était ce qui était déterminé dès le départ. Aujourd'hui, notamment avec l'attachement, on se rend compte que ce style d'attachement est environnemental et qu'il va influencer le fonctionnement génétique. Donc, par exemple, le fonctionnement de votre cerveau et de vos choix, de vos comportements, de vos pensées. Donc, il est important de savoir aussi que si on change d'environnement, si on évolue dans un environnement plus sécurisant, qu'on s'offre soi-même à l'âge adulte, eh bien, on va pouvoir modifier ce fonctionnement. Et puis, pour les parents, le conseil que je donne toujours, c'est celui de... À chaque enfant devrait naître une éducation différente parce que les enfants ne sont pas les mêmes, plutôt que de plaquer une même éducation à tous les enfants. Chaque enfant a des besoins particuliers. Si les parents les identifient, ils vont pouvoir aider cet enfant à devenir quoi? Mais finalement, la meilleure version de lui-même.
Ouais. Et bien sûr, on tend à développer cet attachement qui est sécurisant. Est-ce qu'il y a des amours impossibles, Marc Pistorio? C'est-à-dire style anxieux, style évitant, ça ne pourrait jamais fonctionner?
En fait, on se rend compte quand même que tous les styles d'attachement peuvent donner lieu à l'évolution vers un attachement plus sécurisant. Là où, à mon sens, il n'y a aucune possibilité d'évolution, c'est lorsque l'un des deux remet en question la relation de couple dans des demandes qui sont légitimes et que l'autre lui refuse en fait tout changement.
Ouais.
Si un partenaire dit « je suis malheureux » ou malheureuse parce qu'on a souvent des conflits à tel propos et que l'autre ne s'arme pas à ce moment-là, hein, d'écoute en lui disant « Ok, essayons de voir quelle est notre part de responsabilité respective, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la suite ?» Si on n'a pas cette ouverture, à ce moment-là, il n'y a aucune évolution possible. L'autre difficulté d'évolution aussi, c'est lorsqu'il y a une incompatibilité profonde au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs par rapport à l'éducation des enfants, au niveau, par exemple, des relations d'intimité. Si les valeurs sont trop éloignées, les valeurs par rapport à l'investissement dans la carrière, les valeurs par rapport à l'autorité
à
exercer, à la famille, par rapport à la sexualité, hein, des gens qui veulent une sexualité ouverte, l'autre partenaire ne le souhaite pas. Si l'incompatibilité au niveau des valeurs profondes est grande, à ce moment-là, il n'y a aucune réussite possible dans le couple, même si les gens s'aiment. L'amour, en fait, ça ne suffit pas dans un couple. C'est un bon prérequis, mais ça n'est pas suffisant.
Assez inspirant tout ça, assez intéressant. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Ça ouvre plein de portes,
Marc. Bien sûr, mais c'est l'objet du livre, c'est d'ouvrir les discussions dans les relations de couple.
Oui, et de se dire que tout est possible, mais avec un peu plus que l'amour, de l'écoute et beaucoup de respect. Vous êtes psychologue également, conférencier et auteur de ce livre-là qui vient de sortir chez Édito. Marc Pistorion, merci beaucoup, ça a été un grand plaisir.
Merci à vous.